Alors, sans plus tarder, je vous invite à tourner dans vos Bibles et à regarder avec moi Jonas, chapitre 1. Donc, c'est dans l'Ancien Testament, un petit livre, hein, et de 4 chapitres. Et bon, il y a 15 jours, on a commencé à regarder le livre de Jonas. On a fait juste l'introduction au livre. Et là, nous allons regarder le premier chapitre, finalement, et l'exposer ensemble. Alors, on regarde Jonas chapitre 1, et si vous n'avez pas une Bible, ben, tout simplement faites peut-être un signe ou simplement écoutez. Voilà. Alors, Jonas chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Mais ils se dirent l'un à l'autre: « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit: « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent: « Pourquoi tu fais cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent: « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Chapitre 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Prions. Père éternel, merci d'avoir placé ce texte devant nous ce matin. Merci de nous faire réfléchir ensemble sur ce que tu as à nous dire et qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux. Merci de ta présence parmi nous. Parle à nos cœurs, Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. On a déjà vu ensemble, juste un rappel sur la présentation du livre, l'auteur, la date de rédaction, le contexte. Jonas était un prophète du temps de Jéroboam, et dans ce temps-là, il y avait une certaine prospérité d'Israël, mais en même temps, il y avait eu un abandon spirituel profond qui avait amené Israël à de l'idolâtrie, et finalement, Dieu a permis, vous savez, quand Israël s'éloignait de lui, Dieu permettait que des ennemis envahissent Israël, et c'était le cas, les Assyriens avaient envahi plusieurs fois Israël. Mais malgré cela, Dieu voulait envoyer un messager, un serviteur de l'Éternel, donc choisi Jonas, pour aller proclamer un message à cette ville de Ninive, qui justement était une ville réputée pour sa cruauté, les Assyriens qui avaient envahi déjà plusieurs fois le pays d'Israël, mais il y avait un jugement imminent sur eux. Et Dieu a voulu avoir pitié de cette grande ville. En fait, on a, en résumé, on a vu que le message du livre, face à ce contexte de nationalisme juif étroit, que Dieu exerce la miséricorde, pas simplement envers Israël, les Juifs, mais envers les païens. Dieu a à cœur de sauver toute créature qu'il a créée. Deuxièmement, on a vu que la désobéissance de ses serviteurs ne l'empêche pas d'accomplir sa volonté et d'atteindre ses desseins. On a vu aussi que la réponse positive de Ninive, après un seul message, contraste avec l'endurcissement parfois d'Israël, qui eux ont entendu plusieurs fois des messagers, et donc des messages de l'Éternel, tout en restant dans la désobéissance. En fait, on a vu aussi que Dieu est prêt à pardonner, que Dieu accorde la repentance. Et au travers du livre, on voit que Dieu a pardonné aux matelots, à Jonas, aux habitants de Ninive. En fait, c'est dans la volonté de Dieu de pardonner, d'accorder la repentance. On a vu aussi que Jonas est un type de Jésus-Christ qui est resté 3 jours et 3 nuits au sein de la terre, comme Jonas, 3 jours et 3 nuits au sein du poisson. En fait, le thème du livre, sans revenir en détail là-dessus, c'est la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux. On a regardé aussi le plan du livre, rapidement je vous le rappelle, on ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais on a vu, bon, c'est un choix, il y a 4 chapitres. Le premier chapitre, on l'a intitulé « La fuite loin de la volonté de Dieu », c'est ce que nous allons regarder ce matin. Le chapitre 2, la soumission à la volonté de Dieu, certes un peu forcée maintenant pour Jonas. Et puis l'accomplissement de la volonté de Dieu, la repentance de Ninive. Et puis le questionnement de la volonté de Dieu. C'est Jonas qui discute encore avec Dieu sur ses desseins. Donc ce matin, nous allons regarder, Dieu voulant, la fuite loin de la volonté de Dieu. Versets 1 à 2, on regardera le mandat de Jonas. Ensuite, verset 3, le sauve qui peut de Jonas, qui prend la fuite, et puis finalement, la poursuite de Jonas. Ce livre, en fait, nous amène à nous poser une question, et je pense que c'est la question que le Seigneur nous laisse ce matin. Quelles sont nos excuses pour ne pas gagner le monde à Jésus-Christ? Quelles sont les excuses que nous avons, nous, ce matin, pour être pratique, pour ne pas partager, annoncer l'évangile de Jésus-Christ. En fait, Ninive était face à un jugement imminent de la part de Dieu. Et Dieu envoya, ou voulut envoyer, un prophète pour annoncer le jugement et demander à la ville et plaider pour que la ville se repente. Est-ce qu'il n'y a pas devant nous un jugement imminent de la part de Dieu? Est-ce que nous sommes comme Jonas lorsque Dieu nous appelle, va à Ninive? Qu'est-ce qu'a dit Jonas? Non. Va à Ninive? Non. Va à Ninive? Non, Seigneur. C'est le seul prophète de l'Ancien Testament qui est mentionné en tout cas dans la Bible qui a refusé de faire la volonté de Dieu. Vous allez me dire, oh là là, il a vraiment désobéi à Dieu et nous. Dieu nous dit, regarde, les gens autour de toi, ils périssent. Il y a un jugement imminent, l'enfer, pour ceux qui ne croient pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Périr, c'est l'avertissement de Dieu, qu'il ne périsse point. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Cela est bon, agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Que faisons-nous par rapport à l'appel de Dieu? Peut-être n'osons pas fuir quelque part où vous comprenez l'idée, mais nous avons aussi nos propres fuites. On ne parle pas de fuite géographique, mais nous avons peut-être nos propres fuites. Nos excuses pour ne pas aller et de faire de toutes les nations des disciples. Quelle est notre réaction face à l'appel de Dieu? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu? Quelles sont les excuses que nous utilisons pour ne pas obéir à l'ordre de Dieu et au mandat de Dieu? Les dernières paroles de Jésus-Christ, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire gagner des âmes et en faire des disciples, des hommes et des femmes de Dieu. Quelles sont les excuses que nous employons? On va regarder au travers de ce premier chapitre ici quelques points essentiels, je pense, qui nous font réfléchir par rapport au texte lui-même. Au chapitre 1, versets 1 et 2, nous lisons « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitia, en ces mots. » Vous savez, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu a été adressée à Jonas de façon précise, de façon à ce qu'il la comprenne, qu'il l'entende. Et parfois, nous avons pour excuse, est-ce que Dieu a vraiment dit cela? Et on sait comment, n'est-ce pas, la création, à un moment donné, a chuté, parce que quelqu'un dans le jardin est venu dire à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Mais par notre incrédulité ou notre manque d'engagement, nous pensons, mais est-ce que vraiment Dieu m'a parlé? Est-ce que Dieu a un message pour moi? Eh bien, soyons sans équivoque ce matin, oui, Dieu a une parole pour chacun de nous qui est claire, qui est précise, sans équivoque. Et Jonas avait compris cela. La parole de Dieu avait été clairement annoncée à Jonas. Jonas signifie colombe. Le livre de Jonas signifie colombe, fils d'Amittai, qui signifie vérité. C'était donc un fils de la vérité. Mais il était devenu un homme religieux, on dit orthodoxe, qui finalement, par son esprit et, on va dire, son patriotisme sectaire, ne pouvait pas envisager que Dieu l'appelle à annoncer la grâce de Dieu à toute une ville. Surtout que ces gens-là avaient certainement déjà envahi plusieurs fois son pays et peut-être même tué des membres de sa famille ou des gens qu'il connaissait de son village. Mais pourtant, Dieu lui dit, va à Ninive. Alors, j'ai regardé ici avec vous une petite carte et j'ai pensé que ce serait bien qu'on regarde un petit peu le chemin qu'aurait dû parcourir Jonas. Alors, est-ce que oui, ce bouton marche? Vous le voyez? Alors, il est quelque part ici, Jonas. Et Dieu lui dit d'aller à Ninive, voilà, 400 km au nord de Babylone. Alors on dit que de Ninive à l'endroit où à peu près était Jonas, il y avait 800 km. Et la ville de Ninive comprenait 120 000 habitants. Quand on lit la fin du chapitre, on voit que c'est un des plus grands réveils religieux qu'il ait jamais eu. 120 000 habitants, tous allaient se repentir. Et pourtant Jonas n'était pas prêt à accomplir la volonté de Dieu. On va regarder un petit peu ce qu'était la ville de Ninive. Mais avant, juste pointer ici que Ninive se trouve donc, vous voyez, par rapport à Israël, au nord-est. Et qu'est-ce que fait Jonas? Il veut partir, prendre un bateau et aller loin, 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 en Espagne, au sud de l'Espagne. C'est vrai que je le comprends, hein, c'est beau le sud de l'Espagne. À Tarsis, un port vraisemblablement au sud de l'Espagne. C'est vrai que parfois, on a envie un petit peu d'aller loin en vacances au sud de l'Espagne. C'est tellement chaud, agréable. Hein? Mais il y a un temps pour tout. En tout cas, ce n'était pas le temps pour Jonas d'aller là. Voyez-vous, Jonas, Dieu lui demande d'aller faire à peu près 800 km. C'est vrai, c'est un peu long. Mais il est prêt à faire, d'aller jusqu'au bout du monde. Et Dieu lui dit, Jonas, non, Seigneur. Jonas, va à Ninive. Non, Seigneur. Jonas, va à Ninive. Non, Seigneur. Je n'irai pas à Ninive. Je m'en vais en Espagne. Et il a pris le premier bateau qu'il a pu pour partir. On va y revenir. Cette ville de Ninive, on l'appelait la ville de Ninus. C'était l'ancien capitale du royaume d'Assyrie, sur la rive gauche du Tigre. Alors, j'ai trouvé ici une petite carte, je vais vous le montrer dans un instant. En fait, on dit souvent, en parlant de la grande ville, selon la Bible, que c'était plusieurs villes, un ensemble de villes autour ou dans un triangle, je vais vous le montrer dans un instant, de la ville de Ninive. En fait, c'était une grande ville, et j'ai trouvé un commentaire au sujet de la description de cette ville par un archéologue en 1845, qui a découvert que la muraille à l'ouest faisait 4,5 km, au nord 2,1 km, au sud 1 km, à l'est 5 km, et que les murs de cette ville s'élevaient jusqu'à 15 mètres de haut. Donc une ville fortifiée, et puis si vous lisez, et ce serait bien de le lire suite à ce message, le livre de Nahum, le prophète est en train de décrire par prophétie biblique ce que Dieu lui a communiqué, qui est la destruction de Ninive. Plus tard, Ninive sera détruit. Si le jugement a été reporté, il semble que plus tard le jugement est tombé sur cette ville qui ne s'était repentie qu'en partie et surtout pas, malheureusement, dans le temps. Ce serait bien que je retrouve mes feuilles dans l'ordre, c'est bien. Alors cette grande ville, j'ai noté ici une petite diapo pour vous. Voilà, Ninive, c'était comme un triangle, cet ensemble de villes. Il y avait ici donc Ninive fortifiée, ici ça correspond à la ville moderne d'aujourd'hui de Mossoul, et il y avait donc Tarbissu, enfin plusieurs noms de villes, Kala qui est une grande ville, et donc ça représentait, disons, une mégalopolis, on pourrait dire dans notre terme d'aujourd'hui, une grande ville que, effectivement, Jonas a parcouru en 3 jours pour annoncer l'évangile, enfin la miséricorde de Dieu, la repentance. Donc c'était Ninive, une grande ville. C'était du temps de Nimrod que la ville avait été construite. La Bible dit que c'est Assur qui bâtit Ninive, Rehoboth, Calat et Resen, entre Ninive et Calat, et c'est la grande ville. Cette expression semble indiquer que Ninive, la grande ville, englobait toute une région, comme Paris aujourd'hui. Bon, c'est un commentaire qui dit ça. André Parot, qui est un archéologue de la ville de Bordeaux d'ailleurs, l'appelle à juste titre le triangle de Ninive. En fait, cette ville fut détruite 150 ans après la prédication de Jonas par les Babyloniens. Alors j'ai noté ici, peut-être je vous le lis, mais sachez que cette ville était nommée par Nahum, un prophète de l'Ancien Testament, comme une ville sanguinaire. Pourquoi ? En Nahum chapitre 3, verset 1. Parce qu'elle guerroya durant des siècles contre les peuples voisins et usa de la cruauté la plus féroce envers les vaincus. Assurmanipal se plaisait, donc c'était le chef du royaume, après sa victoire à trancher les mains, les pieds, le nez, les oreilles de ses prisonniers. Il leur crevait les yeux et levait des tertres de têtes humaines. D'autres commentaires disent que les Assyriens empalaient leurs ennemis en plein soleil, les enterraient ou dépeçaient vivants. Vous auriez aimé, vous, aller dans une ville comme ça, prêcher l'évangile? Imaginez que Dieu vous dit, mon fils, ma fille, pourquoi pas, va prêcher, n'est-ce pas, à Kadhafi. Le message de l'évangile, il va se repentir. Oh, pourquoi pas, si Dieu nous envoyait. Je pense qu'on craindrait un peu d'aller là, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre que pour Jonas, l'idée d'aller dans une telle ville qui était réputée avec une telle cruauté, ça demandait beaucoup de la grâce. Mais il devait apprendre à obéir. Un jour, Dieu a dit à Abraham, « Abraham, monte sur la montagne, sacrifie ton fils. » Ça semblait incroyable, le fils de la promesse. Et Abraham a obéi, parce qu'il n'a pas mis en doute la parole de Dieu. Vous savez, des fois, nous, les enfants de Dieu, nous entendons la parole de Dieu, nous la lisons, elle nous parle. Qu'en faisons-nous quand Dieu nous parle? Vous savez, si Dieu nous parle dans nos cœurs, si Dieu nous parle par sa parole, gardons-nous de mettre des œillères, de mettre des bouchons dans nos oreilles et de tourner la tête de Dieu. Parce que l'obéissance est vraiment ce à quoi Dieu prend plaisir. Le message était clair ici. Lève-toi, verset 2, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc Dieu a planifié de juger la ville de Ninive. Mais Dieu voulait envoyer Jonas comme prophète pour annoncer ce jugement, afin que la ville se repente. Le jugement de Dieu était imminent. Sa violence, sa perversion, sa barbarie étaient montées jusqu'à Dieu pour parler un petit peu comme cela. Et Dieu avait décidé de juger Ninive. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est sérieux. C'est sérieux. Vous avez jamais entendu des gens ou entendre des gens dire, vous savez, moi quand je mourrai, si Dieu existe, ben, je lui dirai 2 mots. Je pense que chacun va ployer son genou devant Dieu et sa puissance. Il va se taire devant Dieu, devant sa puissance et sa sainteté. Parce que Dieu est Dieu. Dieu a jugé l'Égypte. Il suffit de lire l'Ancien Testament, les 10 plaies d'Égypte. Dieu a jugé tout un peuple, l'Égypte, afin de laisser son peuple Israël, avec qui il avait fait une alliance, pour qu'il soit délivré de l'esclavage de l'Égypte. Et Dieu a jugé l'Égypte. Et quand Dieu a décidé de juger Sodome et Gomorre, il a jugé Sodome et Gomorre, malgré, n'est-ce pas, la plaidoirie d'Abraham comme avocat pour plaider en faveur de Lot, plaider en faveur de la ville. Dieu a envoyé le feu sur ces villes-là. Le jugement de Dieu est quelque chose de très sérieux. La Bible dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». En Matthieu chapitre 25, il est question des jugements des nations. Et je vous lis rapidement un ou deux versets, parce que ça, vraiment, ça m'a saisi en étudiant Jonas, de penser au jugement de Dieu. Il est écrit, il leur répondra à propos de certains, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais la justice, mais le juste à la vie éternelle. Dieu dit qu'il y aura une justice à la fin des temps, un jugement, et que ceux qui n'auront pas cru, ceux qui auront vécu dans l'injustice, iront en enfer, un châtiment éternel, et puis les autres iront à la vie éternelle, auront la vie éternelle et vivront éternellement proche de Dieu. Et puis en Apocalypse chapitre 20, je vous le lis, il est écrit: puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu, qui est la séparation d'avec Dieu pour toujours. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Sommes-nous conscients, si nous connaissons vraiment le Seigneur, qu'il y a un jugement imminent qui s'en vient, où chacun devra rendre compte de ses œuvres, pour aboutir dans l'éternité avec Dieu ou sans Dieu? Est-ce que nous sommes conscients du jugement de Dieu? J'ai relevé dans le Nouveau Testament, nous allons regarder ça juste un petit instant, j'ai relevé dans le Nouveau Testament, on peut aller en arrière pour garder le plan en tête, simplement le plan du chapitre 1. J'ai regardé dans le Nouveau Testament, en fait, il est question du jugement 55 fois. Et j'aimerais vous lire quelques versets de référence sur le jugement, pas tous, évidemment, mais écoutez ce que dit. C'est Jésus qui parle. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront profanée. Jean 3, 19. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui m'écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Romains 1, 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qu'ils les font. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Romains 2, 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Ça fait vraiment réfléchir cela. Hébreux 9, 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 10, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. 2 Pierre 2, 9, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux, réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Apocalypse 14, 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Apocalypse 17, 1, Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Enfin, Apocalypse 18, 10, il dit, « Se tenant éloigné, dans la crainte de son tourment, ils diront, « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, à une seule heure est venu ton jugement. » Alors, j'ai sélectionné quelques versets qui montrent le jugement de Dieu sur l'individu, sur des villes, sur des nations, et puis un jugement éternel. Je ne sais pas si nous sommes conscients de cela, qu'il existe vraiment un jugement. Mais l'amour de Dieu voulait sauver Ninive. Et l'amour de Dieu veut sauver chaque être humain. Cela est bon, agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui va aller ? Qui va prêcher l'évangile ? Qui va annoncer le jugement de Dieu ? Parce que c'est une réalité, on ne peut pas fuir cette réalité. C'est nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à annoncer l'évangile, qui est une bonne nouvelle. Parce que l'évangile est une bonne nouvelle pour le salut de quiconque croit. C'est de passer de la mort à la vie et de ne plus être en jugement devant Dieu. C'est pour ça que le ministère, par exemple, de Jean-Baptiste était un ministère de la repentance. J'aimerais juste mettre l'accent, je sais qu'on va arriver au texte plus en détail, mais le message de Jonas était à la fois un message du jugement imminent de Dieu et un message de repentance. C'est pour ça, par exemple, qu'il devait aller à Ninive, mais c'est pour ça, par exemple, que pour préparer le chemin du Seigneur, Jean-Baptiste disait « Repentez-vous, car le royaume de cieux est proche ». Matthieu 3, comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Celui qui se repent a une vie transformée parce qu'il change de mentalité, métanoïa dans le grec. Il a une mentalité différente, il voit les choses comme Dieu les voit, il voit le péché comme Dieu le voit. Et il n'a pas envie de vivre dans la boue du péché, il veut s'en sortir. Parce qu'il voit la sainteté de Dieu, il se repent de sa vie, de l'orientation dans laquelle il vivait, du chemin qu'il parcourait, et il se repent pour s'en détourner. Mais les apôtres aussi, Jésus a dit qu'il les envoyait, qu'ils prêchèrent la repentance. Ah, je sais que le message de repentance n'est pas un message populaire, quelque part. Jésus, à l'exemple de Jésus, il a dit ceci, Jésus. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le même message que Jean-Baptiste. Marc 1, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, il prêchait la bonne nouvelle de Dieu, bonne nouvelle de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Pour avoir la foi, il faut se repentir parce que se détourner de ses péchés, de sa propre vie, parce que les yeux tournés vers Dieu, on voit que le chemin de Dieu n'est pas notre chemin. Je ne suis pas venu à appeler à la repentance des justes, mais les pécheurs. Alors, la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que... Enfin, mauvaise nouvelle, c'est qu'on se voit tel qu'on est, pécheur et perdu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a un plan de salut pour sauver quiconque croit. Et il leur dit, il est ainsi écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Moi, ça m'interpelle cela, dans le sens que je ne suis pas sûr que quand nous prêchons l'évangile, on parle aussi de repentance. On a un évangile tellement à dose peut-être de vouloir plaire, d'être tellement plein d'amour, un peu à l'eau de rose, qu'on n'ose pas dire toute la vérité de Dieu. Mais parfois, il faut secouer les consciences pour faire prendre conscience aux gens que vraiment, il est question de l'éternité, puis qu'il y a un jugement à venir. Nous-mêmes, les enfants de Dieu, la Bible dit qu'on passera devant le tribunal de Christ, non pas pour être condamnés, mais pour être jugés par rapport à ce qu'on aura fait sur terre, pour avoir des récompenses. Ça veut dire que Dieu est un juste juge dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il voit par rapport aux hommes. L'apôtre Pierre disait ceci, je termine avec ça, il disait « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Encore le même message, « Repentez-vous. » J'espère qu'il ne me manque pas une feuille, non. Et puis finalement, Il est écrit aussi en Actes, chapitre 3, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Vous avez compris, frères et sœurs, si j'ai pris le temps de lire tous ces versets, c'est pour montrer qu'il y a un vrai jugement de Dieu, une vraie condamnation, mais aussi qu'il y a un appel à la repentance. Est-ce que vraiment mon message contient toute la proclamation de Dieu, y incluant le jugement à venir et le besoin urgent de repentance? 2 Pierre 3,9 dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Alors, quelle est la réaction de Jonas? On revient à Jonas. Je fais une longue parenthèse, mais je pense que c'était le message de Dieu pour Ninive. Il ne faut pas passer à côté de cela. Un message d'un jugement imminent et un besoin de repentance. Et Jonas avait compris cela. Jonas avait compris, parce qu'il connaissait très bien ce peuple d'Assyrien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, il fuit. Et dans sa fuite, il a assez d'argent pour prendre le bateau. Et puis, il est assez chanceux pour trouver un bateau qui va l'amener au loin. Et ça m'a fait penser ceci, c'est qu'en fait, même lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, on peut peut-être penser que certaines portes quand même s'ouvrent pour nous. Ce n'est pas si pire de désobéir à Dieu. Regarde, Seigneur, j'ai quand même l'argent, je vais prendre un bateau, je vais aller loin. Puis ça tombe bien, il y a un bateau qui part très loin, je vais le prendre, ça tombe bien. Ce n'est pas parce que les circonstances parfois nous semblent favorables qu'on est dans la volonté de Dieu. Et je pense que là, il y a une première application pratique à avoir, c'est qu'on doit veiller à savoir si on est dans la volonté de Dieu. Et ne pas toujours se laisser diriger par des circonstances qui pourraient sembler favorables. Bien sûr que Dieu peut parler et exercer et démontrer sa volonté au travers des circonstances, mais méfions-nous de ne pas nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements, comme dit la Bible. On pourrait, sans se rendre compte, s'éloigner de Dieu et croire que Dieu nous bénit d'être loin de lui, de le désobéir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et vous savez, on fait cela jusqu'à ce que Dieu intervienne. Et puis, quelle intervention dans le cas de Jonas? Pourquoi est-ce que Jonas s'enfuit-il? N'est-il pas prophète de l'Éternel? Ne sait-il pas que quelque part, on ne peut pas résister à Dieu et se cacher loin de la face de Dieu? D'ailleurs, je vous lis un passage rapidement, si vous me permettez. Psaume 139, je vous le lis, verset 7, il est écrit « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Est-ce qu'on peut fuir loin de Dieu? On ne peut pas fuir loin de Dieu. C'est bien pour nous d'ailleurs, Adam et Ève ont essayé de fuir loin de Dieu. C'est Dieu qui les a rattrapés. Et là, il rattrape Jonas. Pourquoi Jonas s'enfuit-il? Il n'a pas peur pourtant de prêcher à Ninive. Je pense que c'était un homme courageux. Il est prêt à partir et même il est prêt à mourir. Il n'a pas peur de faire un long voyage. Il est prêt à aller à Tarsis avec un bateau et peut-être traverser des tempêtes. Donc, il n'avait pas peur d'aller jusqu'à Ninive et de faire ce long voyage. Il n'avait même pas peur de mourir, même d'être tué par les Assyriens. À un moment donné, il demande même qu'on le jette par-dessus le bateau. Il était prêt à mourir. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas, qu'il refusait de mourir. Mais il ne voulait pas une chose. Il redoutait d'une chose, c'est que Ninive se repente. C'est grave quand même quand un prédicateur pense qu'il aimerait avoir l'effet inverse de sa prédication. C'est quand même un peu malhonnête, n'est-ce pas? Alors lui, il voulait fuir, il ne voulait pas prêcher. En fait, dans son esprit religieux, il ne pouvait pas concevoir que Dieu fasse miséricorde à toute une ville aussi cruelle, avec une telle réputation. Jonas ne voulait pas pardonner aux Assyriens leur cruauté. Les Israélites haïssaient les Assyriens. Peut-être même que la ville de Jonas avait été envahie dans le passé par les Assyriens, que certains membres de sa famille avaient été tués. Il ne voulait pas exercer la miséricorde de Dieu, il n'avait pas compris la grâce infinie de Dieu, le pardon infini de Dieu. Un jour, je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire de Corinne Ten Boom, qui est une femme dont la sœur est morte d'ailleurs dans un camp de concentration, Elle avait l'habitude en Hollande de cacher des juifs, et les nazis l'ont pris avec une partie de sa famille amenée dans un camp de concentration. Une partie de sa famille est décédée et elle a été rescapée, elle a réchappé au camp de concentration, elle a fait des conférences sur le pardon de Dieu, elle a prêché en Allemagne, elle a prêché dans des conférences où il y avait des centaines, des milliers de gens. Elle a dit qu'elle pardonnait au bourreau de sa sœur. Jusqu'à la fin d'une conférence, quelqu'un est venu lui parler. Il dit, êtes-vous prête à me pardonner à moi? Comment ça? Oui, j'étais là aussi à ce camp de concentration où votre sœur a été tuée. Elle l'a reconnue. Et là, dans son cœur, il y avait une lutte terrible entre l'amertume et la haine qu'elle aurait pu avoir envers ces bourreaux qui l'avaient fait tellement souffrir et les membres de sa famille. Mais elle a décidé de pardonner. Et elle a pris cet homme dans les bras. Elle a dit, oui, je vous pardonne au nom de Jésus-Christ. Ce n'était pas facile, mais elle a dit, oui, je vous pardonne au nom de Jésus-Christ. Est-ce que parfois nous ne sommes pas assez bigots, sectaires, religieux, au point de juger peut-être ceux qui sont en marge de la société et ne pas avoir l'amour de Dieu pour les voir se tourner vers lui? Est-ce que nous sommes tellement faits de préjugés que nous ne croyons pas que Dieu peut sauver n'importe qui que nous pouvons rencontrer? L'apôtre Paul avait une passion, il disait qu'il voyait les hommes avec la vision de Christ, qu'à l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, tous donc sont morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort, resté pour eux. Il avait la conviction que Christ était mort pour chaque individu sur la terre, au travers du temps. Et il avait cette passion de gagner les âmes, peu importe leur origine, peu importe leur état de péché. Il prêchait la repentance de tout son cœur et il voulait voir les gens se convertir à cause de l'amour de Christ en lui qui le pressait. Ésaïe dit ceci, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez, compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. » Le peuple d'Israël avait un mandat, c'est de témoigner de Dieu, ce Dieu créateur des cieux et de la terre, ce Dieu qui a créé le monde et qui est saint et tout-puissant et qui veut être en relation avec les hommes. Et Jonas a mis de côté cet aspect de Dieu, de la miséricorde, du pardon qui surpasse tout péché. Pourquoi Jonas a-t-il failli à sa tâche? Parce qu'il était animé d'un esprit de sectarisme, manque de miséricorde, manque de bonté. Il ne pouvait pas imaginer que Dieu accorde quelque part la repentance aux païens. Il ne voulait pas en tout cas que Dieu accorde le pardon aux païens, aux non-juifs. Il n'était pas rempli de l'amour de Dieu. Il aurait préféré que Dieu détruise cette ville et la juge. Et pourtant, son peuple avait été appelé pour être des témoins de salut. Ça fait penser aux disciples en Luc chapitre 9, lorsqu'ils n'ont pas trouvé ce qu'il fallait, ils se sont tournés vers le Seigneur et disent « Seigneur, veux-tu qu'on demande au feu du ciel de descendre sur eux ?» Et Jésus leur a dit « Mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Il y a parfois un zèle amer, un zèle qui manque vraiment de l'amour et de l'équilibre de Dieu. Mais est-ce que nous aimons tous et chacun? Si Dieu nous place auprès des pauvres, auprès des riches, auprès des handicapés, des malades, des bien portants, peu importe, de grands prêcheurs, de drogués, de prostituées, d'homosexuels, comment regardons-nous ces gens? Est-ce que nous les regardons avec l'amour de Christ qui nous presse pour les gagner à lui? Oui, il y a des prostituées qui se convertissent. Oui, il y a des drogués qui se convertissent. Oui, il y a des homosexuels qui se convertissent. Des criminels se convertissent. Parce qu'un jour, quelqu'un leur a parlé du Seigneur. Le Seigneur a dit ceci à la vue de la foule. Il en a eu compassion car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont point de berger. Ici, dans l'original, c'est l'idée d'être déprimé, d'être sans espoir. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ici, je me souviens quand notre professeur de grec à l'école biblique a voulu illustrer le mot envoyé, qui est le mot grec ekbalo. Il nous a dit, vous voyez, c'est comme prendre quelqu'un et le projeter par la fenêtre. Ça m'a toujours fait réfléchir. J'ai dit, le Seigneur est si violent que ça. Et oui, envoyer, ça a le sens de jeter dehors, pousser dehors, envoyer avec une notion de violence. Vous savez pourquoi Jésus-Christ est obligé de nous prendre et de nous envoyer avec force? Parce qu'on n'a pas envie d'aller, parce qu'on est des paresseux. On préfère vivre dans son confort, rester où on est, que d'aller faire de toutes les nations des disciples et aller vers ceux qui se perdent pourtant et qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans notre nature, on préfère rester dans notre équilibre personnel, notre confort personnel. On n'est pas prêt à souffrir pour le salut des âmes. On n'est pas prêt à payer le prix que pourtant Jésus-Christ lui-même a payé à la croix. Quand il nous dit d'être ses disciples, ça va inclure ses souffrances. Ça va inclure la persécution, le rejet, peut-être des mauvaises paroles, mauvaise réputation sur nous. Mais vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, pour Dieu, que de rester dans son confort et voir des gens autour de soi qui meurent sans Dieu et sans espoir. Nous avons eu un feu à la maison et un voisin bienveillant qui promenait son petit enfant dans sa poussette le long du chemin proche de chez nous et qui appelait les pompiers. Il avait sonné chez nous, ça ne répondait pas. Il a de suite appelé les pompiers. Les pompiers sont venus et ils n'ont pas tardé à tout fracasser la porte, etc. Ils ont éteint l'incendie. Parce que c'est vrai qu'il y avait un incendie et tout le bâtiment aurait pu prendre feu. Ils ont fait leur travail. Et nous, il y a un incendie qui est autour de nous. Des âmes, des hommes et des femmes de Dieu qui sont en route pour l'enfer, pour le jugement éternel. Et c'est une réalité dans la Bible. Et que faisons-nous? C'est urgent. C'est urgent d'aller. C'est urgent de parler. C'est urgent de partager l'évangile de la grâce, de la miséricorde de Dieu. C'est urgent de faire des disciples. Nous n'avons qu'une seule vie à vivre sur terre. Pour qui, pourquoi allons-nous la vivre? Est-ce que nous comprenons que Dieu nous appelle à être des missionnaires, des évangélistes, ceux qui apportent la bonne nouvelle de l'évangile de Christ? Dieu nous appelle à ce ministère d'évangéliste. Est-ce que nous sommes prêts à le faire? William Booth était un homme remarquable qui a eu miséricorde dans son cœur, beaucoup de compassion pour les prostituées dans un temps en Angleterre où il y avait une grande pauvreté, la crise économique du charbon. Il y avait beaucoup d'alcooliques aussi dans les rues. Et William Booth mettait une grosse caisse devant son ventre, il tapait, il se mettait sur une chaise, il prêchait l'évangile. Et les gens étaient convertis. Les gens étaient convertis. Jim Elliot un jour est parti pour annoncer l'évangile au Jivaro. À peine son avion s'est atterri proche de leur lieu géographique, ils ont été tués. Ils étaient connus pour les réducteurs de têtes. Ils coupaient les têtes et puis ils s'amusaient à les réduire comme ça. Et sa femme a eu tellement d'amour pour les bourreaux de son mari. Elle a réfléchi comment amener ces gens au Seigneur. Elle est allée vivre juste à côté de leur campement en tant que femme. Et elle a commencé à se lier d'amitié avec les femmes, les épouses des maris qui avaient tué son mari. Et par l'amour de Christ en elle, elle s'est donnée pour ces femmes. Et ces femmes se sont converties, et tout le village s'est converti. Là où son mari est mort, a versé son sang, elle a répandu l'amour et le pardon, et elle a gagné, elle a vraiment gagné ces gens-là au Christ. Il y a un prix à payer. David Wilkinson est parti prêcher avec une vision parmi les drogués, et on sait comment ça a été difficile. Quel est le fardeau que nous avons? Je vais vous raconter une anecdote qui me vient à l'esprit, mais comprenez le contexte dans lequel je dis. Je me souviens d'un frère, à l'église, et puis son papa tombe malade, et puis gravement, et je ne sais pas, j'ai eu un fardeau profond pour le salut du papa de ce frère, et je priais vraiment. Et je me suis aperçu que le frère ne comprenait pas l'urgence de la prière. Vous savez, on peut être chrétien et être tellement voilé qu'on ne voit plus l'urgence de prier pour un père, une mère, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un enfant qui n'est pas sauvé, qui est en route loin de Dieu. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jonas, lui, il a fui. Et on va prendre les quelques minutes qui nous restent à regarder le texte. Jonas a fui. Et comment, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, malgré la désobéissance de Jonas, Dieu s'est révélé aux marins qui étaient sur ce bateau, qui étaient des païens. C'est extraordinaire. Et Dieu a envoyé une tempête pour arrêter Jonas. Et regardez bien dans le texte, si vous avez lu avec moi attentivement, la tempête ne faisait que grandir. Quand on s'oppose à la volonté de Dieu, Dieu s'oppose à notre volonté. Et la tempête ne faisait que faire orage et mettait en péril le bateau et donc les marins. Et au travers de cette épreuve, Dieu s'est révélé à des païens. Et Jonas est devenu missionnaire, malgré lui, sur le bateau qu'il voulait prendre pour fuir loin de la volonté de Dieu, pour être missionnaire parmi les païens. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal de la part de Dieu de faire des choses comme ça? C'est assez extraordinaire, n'est-ce pas? Ces gens-là ont compris que le Dieu de Jonas était le vrai Dieu qui, en plus, pouvait maîtriser la tempête. Ils ont jeté au sort, le sort, est, par hasard, hein, entre guillemets, est tombé sur Jonas, qui lui dormait. Il était tellement fatigué, cet homme-là. Vous savez, quand on est loin de la volonté de Dieu, on est vite fatigué. Fatigué au point de ne pas prier. Les marins priaient. Ils ne savaient pas qu'ils ne priaient pas Dieu, le Créateur de la terre. Ils priaient leur Dieu. Et pendant qu'ils priaient leur Dieu, lui, Jonas, n'avait plus de force pour prier son Dieu qui pouvait apaiser la tempête. Plus capable de prier, plus capable de témoigner, un contre-témoignage, finalement, hors de la volonté de Dieu. Ils ont compris que c'était grave ce qu'ils faisaient. Et même à un moment donné, il est écrit, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Parfois, c'est les inconvertis qui disent aux convertis, loin de la face de Dieu, « Pourquoi fais-tu cela ?» Tellement celui qui est loin de Dieu, rétrograde, peut s'éloigner de l'éthique du Seigneur et marcher loin du Seigneur. Et puis le prophète qui s'éloigne de Dieu, il perd sa présence, il perd son énergie, il ne prie pas, il n'a plus le désir de prier, il perd son témoignage. Il déclare au sujet de Dieu qu'il est loin de Dieu, qu'il est en train de fuir Dieu, et puis il est prêt finalement, pour ne pas annoncer l'évangile, à être jeté par-dessus bord. C'est du suicide, non? Mais il ne s'attendait pas qu'un poisson aille le repêcher. Alors, on voit ici la bonté, la miséricorde de Dieu. J'aimerais dire ceci, excusez-moi, j'étais un petit peu long pour parler de repentance et de châtiment imminent, mais ça m'a vraiment saisi en préparant ce passage. Mais j'aimerais qu'on fasse quelques applications pour nous. Premièrement, s'éloigner de Dieu, c'est se priver de sa présence et perdre sa communion intime. Et c'est entrer dans la confusion, faire des choix qui nous éloignent du plan de Dieu. S'éloigner de Dieu, c'est entrer dans des circonstances adverses qui deviennent croissantes. C'est dangereux de s'opposer à la volonté de Dieu et c'est apporter le trouble avec soi. Jonas avait apporté du trouble dans le bateau. Et puis Dieu n'enlève pas les circonstances adverses tant qu'il y a des obéissants. Alors il y a parfois des épreuves que Dieu permet dans nos vies. Il faut faire la distinction. Mais parfois il y a des circonstances adverses parce que Dieu veut nous arrêter sur notre chemin d'erreur. Et cela nous fait penser à adorer Dieu. Parce que dans ce texte ici, on voit la fidélité de Dieu. C'est Dieu qui intervient dans la vie de son prophète. C'est lui qui envoie un vent impétueux. C'est lui qui dirige la réflexion des marins et le tirage au sort du coupable qui tombe sur Jonas. Il permet la désobéissance de Jonas, mais il permet que ces païens entrent en contact avec lui. Ils commencent à l'invoquer. Ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, tu ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. » Et finalement, ils l'adorent, Dieu. C'est incroyable, au travers de ces situations, comment Dieu arrive à se glorifier. Et puis finalement, il transforme la situation désespérée des marins en sujet d'adoration, je l'ai dit. Et puis il sauve Jonas parce qu'il le fait engloutir par un poisson. Et on a calculé en introduction, il y a 15 jours, qu'il y a 10 miracles dans le livre de Jonas qui sont mentionnés. En fait, en conclusion, Dieu est souverain en toutes circonstances. Et malgré la désobéissance de son serviteur, il se révèle à des marins ignorants pour leur montrer qui il est, ce Dieu unique, créateur des cieux et de la terre. Et puis Dieu a un but à atteindre, c'est que la repentance soit proclamée à Ninive, et il va faire en sorte que son serviteur y aille. Nous aussi, ne fuyons-nous pas parfois face à l'appel de Dieu? Jonas, lui, ne voulait pas penser, ne voulait pas que Dieu accorde le pardon à Ninive. Je ne pense pas que quelqu'un d'entre nous ne veut pas que Dieu pardonne à quelqu'un d'autre. J'espère. Mais nous avons d'autres excuses. Pas assez de temps. Le Seigneur nous dit, allez, faites une nation des disciples. Seigneur, j'ai pas assez de temps. Je suis incapable. Je suis trop occupé, trop fatigué. Je n'ai pas assez de connaissances. Je ne suis pas doué. Je ne suis pas appelé à être évangéliste. Seigneur, pas moi. Quelqu'un d'autre, je suis prêt à prier pour quelqu'un d'autre, mais pas moi, Seigneur. Est-ce que nous réalisons qu'en agissant comme ça, c'est tout simplement la démonstration d'un cœur égoïste qui manque d'amour, qui n'est pas rempli de la compassion de Christ, qui lui est mort pour nous? C'est Jésus lui-même qui nous a dit d'aller de faire toutes les nations des disciples. Nous avons chanté tout à l'heure ce chant qui dit « Va vers ceux qui pleurent ». Et dans le refrain, il est écrit « Cherchons-les, cherchons-les, ne savons-nous pas le prix d'une âme ?» Je vous invite, en quelques secondes ici, à nous recueillir, baisser nos têtes, si vous voulez bien, en tout cas, fermer nos yeux ou être dans un moment de recueillement, peu importe. J'aimerais juste que nous réfléchissions à la valeur d'une âme et donc à la valeur de la croix, là où Jésus est mort pour nos péchés. Il est ressuscité, il est plein d'amour pour les âmes. Peut-être y a-t-il quelqu'un autour de vous, dans votre vie quotidienne, à qui vous n'avez jamais parlé du Seigneur. Peut-être n'avez-vous pas eu un fardeau particulier pour une âme. Vous n'avez jamais pleuré pour une âme. Bien, je vous invite à répondre à l'appel de Dieu. Va et crie vers elle. Un message de repentance, de salut en Christ. Seigneur notre Dieu, certainement ce message n'est pas parfait, mais ton message l'est. Et le message de salut est un message éternel. Et nous sommes souvent en faillite par rapport à la délivrance de ce message que nous voudrions apporter avec puissance dans un monde perdu. Nous te prions dans ta bonté, Seigneur, de nous visiter, afin que nous ne nous entêtions pas dans des voies de matérialisme, de loisirs, de bien-être personnel, de confort personnel, de manque de prière, de loisiveté face à un monde perdu qui est en flammes. Seigneur Jésus, donne-nous de voir les âmes comme tu les vois. Nous nous humilions devant toi, nous réalisons notre manquement et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à voir comme tu vois, avec des yeux d'amour et de compassion, et à voir le besoin éternel des âmes qui nous entourent. Te prions, Seigneur, de nous visiter et de nous remplir de cet esprit de compassion pour aller et de faire toutes les nations des disciples. Nous te le demandons, Seigneur. Et je te prie, Père, que s'il y a quelqu'un ici en particulier qui est touché par ce message et qui veut se lever pour Christ, eh bien, qu'il le fasse dans son cœur, dans sa prière, qu'il dise, oui, Seigneur, je veux aller pour toi, parce que tu m'as sauvé. Fais de moi un gagneur d'âme. Au nom de Jésus-Christ.